si tu commences un podcast sur les finances personnelles, aujourd'hui, je pense pas que tu vas être capable d'avoir les mêmes chiffres.
Parce que c'est vous qui avez la place.
C'est ça.
Est-ce que t'es riche?
Donne des souvenirs de moi quand je commençais, là, donc c'est bien.
Cool.
Il y a plein de gens qui sont sous les rideaux, on sait même pas qu'ils existent, qui font des millions par année avec leur entreprise.
Bonjour et bienvenue à l'épisode 15 du podcast Ça me parle. Cette semaine, je parle avec le plus gros invité que j'ai reçu jusqu'à présent, Hubert Côté. Il y a une entreprise et un podcast qui fonctionnent assez bien. Les deux sont intimement liés. Le nom de cette entreprise et de ce podcast, c'est Libe. Dans le fond, l'objectif de cette entreprise et de ce podcast-là, c'est de rendre là, les connaissances sur les finances personnelles accessibles à tous. Donc là, on parle aujourd'hui là, vraiment de comment il a lancé ces entreprises-là, puis comment il y a eu une bonne croissance. Vous allez voir, il nous explique ça un peu, là, c'est quand même intéressant. On parle aussi de développement personnel, de communication, des choses comme ça. Ce que j'ai appris beaucoup, là, c'est pas nécessairement des notions théoriques, je dirais, mais ça m'a beaucoup fait réfléchir sur la façon dont je communique, parce que vous remarquerez qu'il communique très bien, il s'exprime super bien, c'est très concis, c'est très clair ce qu'il dit. Puis ça m'a inspiré à travailler encore plus sur ma communication, puis être encore plus éloquent, dire ça comme ça. Donc voilà, bonne écoute. Tu dis que t'as toujours été entrepreneur à la base, mais là, ça fait à peine un an que ton entreprise est lancée, fait que je me dis, bon, ben, t'as sûrement eu d'autres projets avant.
J'ai pas toujours été entrepreneur, mais j'ai toujours voulu faire de l'argent puis être autonome. Donc, ma première entreprise, ça a été dans l'univers du marketing, mais maintenant, avec Libe, on a créé ça en 2021, fait que là, maintenant, ça va faire presque 3 ans. Puis, ça avance bien. Avant ça, c'est ça, j'ai fait un paquet d'autres choses, plusieurs tentatives, j'ai fait beaucoup d'essais-erreurs. Puis maintenant, là, je pense que les gens me reconnaissent plus dans la rue à cause de Libe. Mais en effet, là, j'ai un passé avant Libe.
Peux-tu me parler un peu de ça?
Oui, absolument. J'ai commencé quand j'avais 16 ans, je faisais du porte-à-porte. Donc, on vendait là, essentiellement des systèmes d'alarme, on vendait des entretiens de terrain. J'ai vraiment fait le classique là, jeune qui essaie de vendre des choses aux portes. C'était plus ou moins fructueux. Puis après ça, j'ai essayé plusieurs autres tentatives de partir un e-commerce de ma propre marque de vêtements au cégep. Après ça, à l'université, agence de marketing, consultation, qui avait quand même bien fonctionné. Mais à travers tout ça, le problème, je pense qu'il n'y avait pas un réel produit dans lequel j'étais purement excité puis qui me passionnait. Puis les finances, depuis maintenant 6-7 ans, ça m'avait toujours passionné, mais j'avais jamais été entrepreneur dans l'univers des finances. Libe, on dirait que à force d'essayer, ça a vraiment tombé sur le X là, de la passion puis du besoin du marché.
Mm-hmm. Fait que de ce que je comprends, c'est que la passion est au cœur de ça. Fait que si tu fais être entrepreneur, ça, idéalement, ça prend quelque chose qui t'est passionné, ça prend un sujet qui te passionne.
Ouais, absolument. Puis il y a beaucoup une question de timing. Souvent, c'est négligé, mais c'est certain que ma philosophie maintenant, à travers ma jeune carrière, c'est que j'aime mieux m'adresser à des océans bleus versus des océans rouges où il y a beaucoup de compétition. Donc, c'est certain que si on prend l'exemple de Libe, ben la démocratisation des finances, c'est personne ou très peu de gens le faisaient en 2021. Puis, veut pas, c'est un problème. L'argent, c'est un sujet qui est tabou. Puis, nous, en tant que... Je pense que c'était fait par les gens, pour les gens, d'une personne qui était passionnée puis qui voulait partager un peu sa passion sur les ondes en ligne, sur les réseaux sociaux. Mais ça a fait en sorte que justement beaucoup de gens ont adhéré parce qu'il y avait un réel besoin puis il y avait un manque. Et après ça, je pense que c'est pour ça qu'on a croit aussi rapidement. Là, on pourra en parler. Là. Mais maintenant, on a plus de 600 000 téléchargements de notre podcast. Puis on est entre 15 et 20 000 membres, puis on a près de 5000 clients.
Ça a monté vite parce que j'ai regardé sur votre site, puis t'avais écrit dans ton profil genre 3000 auditeurs à ton podcast, puis 2800 membres.
Ouais.
Ça, c'était quand ça, que t'as écrit ça?
Bonne question. 3000 membres, ça devait être là, un an et demi.
Ok, on pourra peut-être revenir après ça, comme tu sais, du début, puis la croissance, comment ça s'est fait, tout ça, là, je trouve ça intéressant. Ouais. Mais juste avant, là, j'aimerais savoir, tu sais, parce que tantôt, t'as dit, j'ai toujours su que je voulais faire de l'argent. À quel âge tu t'es dit, genre, ah, moi, je veux faire de l'argent plus tard?
J'en ai parlé justement à mon cousin. Il me disait que quand j'avais 14, 15 ans, je lui avais dit ça, justement, que je voulais faire de l'argent. Mais on dirait que plus que ça, tu sais, je veux dire, j'ai eu des emplois aussi qui payaient bien. Mais c'est surtout le fait de pouvoir impacter ou, tu sais, aider des gens tout en faisant de l'argent. Là, je trouve que personnellement, ça résonne beaucoup avec mes valeurs.
Puis est-ce que tes parents sont riches?
Non, absolument pas.
Est-ce que puis tu sais, est-ce que tu sais pourquoi si jeune tu voulais faire de l'argent? Parce que tu sais, on pourrait penser que mettons, tu dis à 14-15 ans, on n'a pas tout le temps la perspective nécessaire pour dire ok, qu'est-ce que ça m'apporte de l'argent et tout ça. Fait que c'est pour ça que je te demande cette question-là, parce que je me dis bon, peut-être que ses parents avaient beaucoup d'argent puis ils voyaient le mode de vie ou je sais pas trop là. Fait que qu'est-ce que tu penses qui était un facteur déterminant de vouloir de l'argent, tu sais?
Ouais, ben dans l'univers entrepreneurial, j'ai l'impression qu'il y a quelques patterns là, qui poussent les jeunes à vouloir entreprendre une telle carrière ou un tel mode de vie. De ce que j'ai remarqué, souvent ou parfois, c'est un enfant avec une mère monoparentale, puis qui doit, dans le fond, provide pour sa famille puis ses frères et sœurs. Luc Poirier, c'est un bon exemple. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Luc Poirier, là, c'est un des grands investisseurs immobiliers au Québec. Vous pourriez le googler. Puis également, l'autre, c'est pas nécessairement que la famille n'arrivait pas à subvenir aux besoins de l'enfant, mais que c'était un sujet de discorde, ça crée des problématiques où littéralement, tu sais, la famille manquait d'argent. Mm. Fait que j'ai l'impression que c'est un melting pot de tout ça ensemble qui peut créer un appétit pour cette voie-là relativement jeune, mais ça peut être aussi une simple passion. Tu sais, un jeune enfant qui est passionné par les Lego, il aimerait ça juste acheter plus de Lego, et qui commence à vendre les Lego qu'il aime moins, puis qui fait croître ça, puis finalement, ça devient une entreprise. Il y a aussi la simple et unique chance. Tu sais, des gens qui pensaient absolument pas être entrepreneurs, mais par exemple, ils se font léguer une entreprise par la famille, ou ils reçoivent un poste de direction qu'ils ne s'attendaient pas nécessairement. Il saisit son opportunité, tu sais. Ouais. Je pense que c'est comme les trois potentiels.
Parce que là, tu sens, mettons, inclure, devenir, le vouloir de devenir un entrepreneur avec le vouloir de faire de l'argent, est-ce que pour toi, ça va ensemble? Absolument? Ou?
Absolument, parce que c'est tellement difficile qu'à un certain moment, il faut qu'il y ait quelque chose qui pousse à... Tu sais, c'est excessivement difficile, cet univers-là. C'est une charge mentale titanesque. Puis évidemment, ça va requérir des sacrifices. Puis il faut que le but ou l'arrivée ou l'objectif soit ultimement plus grand que soi, que ce soit, oui, la quête monétaire, mais souvent la quête monétaire va s'effriter. Tu sais, après 4-5 ans, quand tu réussis à avoir du succès, ben, t'sais, souvent après ça, les gens vont questionner ou vont entendre un plateau. T'sais. C'est certain que oui, la quête monétaire, je pense que quand on est jeune, c'est exactement ça qui nous pousse vers le domaine entrepreneurial. Puis après 4-5 ans, ben, j'ai l'impression que c'est là que c'est vraiment une cassure entre OK, good, je fais 100 000, 200 000 par année, 300 000 par année, 500 000, peu importe. T'sais, j'adore mon mode de vie. Soit je veux continuer à vivre ce mode de vie-là et le faire, ou tu veux continuer à croître. Puis c'est vraiment une quête comme, qui est plus grande que ça. Là.
C'est plus une quête de croissance qu'une quête monétaire.
Ouais, mais je pense que l'argent veut pas régir une bonne partie de notre société. Fait qu'on peut quand même croître longtemps dans cette mentalité-là ou cette volonté-là d'avoir plus d'actifs.
Mm-hmm. Puis parlant de croissance, justement, parle-moi un peu de la croissance de ton entreprise, parce que là, tu m'as dit... Que dans le fond, vous avez parti ça en 2021, là. Excuse-moi, en passant, là, j'avais cru comprendre que c'était 2023, mais... explique-moi un peu le parcours de ton entreprise jusqu'à là.
Ouais, ben, tu sais, mettons, je peux donner l'historique de téléchargement de notre podcast. Comme ça, on va pouvoir voir une progression, puis les gens qui nous écoutent vont pouvoir savoir à peu près à quoi s'attendre.
Ouais. Parce que, excuse-moi, je te coupe, mais dans le fond, j'imagine que la croissance du podcast est directement liée avec la croissance d'entreprise.
Oui, absolument. Ben, c'est un de nos canaux de communication les plus populaires. Ça et l'infolettre. Okay. On a une infolettre qu'on envoie tous les dimanches. À toutes les deux. C'est bimensuel, pardon. Fait qu'à tous les deux dimanches.
Okay.
Puis, c'est ça, mais le podcast aussi, ça a été un gros vecteur de croissance pour notre communauté. En août 2021, on fait à peu près un épisode par semaine, 296 téléchargements. Right. Septembre 2021, 2000 téléchargements. Je vais peut-être pas nommer tous les mois, là. Mais mettons, c'est octobre 2021, 2000 downloads. Novembre 2021, 3000 downloads. 3300 en décembre. C'est janvier, 5000. 6000 en février. 8000, 9000. Là, d'avril, on était à peu près à 9000. Mais un bon bounce, 14000 downloads. Et là, on arrive en septembre 2022. On est à 30 000 téléchargements. Et quand un an, on a passé de 0 à 30 000 téléchargements par mois. Après ça, on a piqué à comme 50 000 téléchargements en janvier 2023. Puis là, on est en moyenne à 40 000.
Insane. Puis pourquoi vous avez commencé à 300 puis pas à genre 4?
Parce qu'on avait déjà une infolette.
Qui roulait depuis un bout?
Ouais.
Puis c'est ça qui a
fait. Depuis un bout, depuis... depuis quelques semaines. C'était assez récent, mais c'est juste que je l'ai publié aussi sur les réseaux sociaux, puis je pense que c'était des sujets qui étaient quand même intéressants. Fait. Mais c'est aussi 296, dans le sens que il y a des gens qui sont partis. Oh non, c'est historique. Fait que, ouais, non, c'est ça. 296 téléchargements. Fait qu'on avait peut-être 80 dans l'autre par épisode.
Nice. Nice, quand même. Fait que, belle croissance. Est-ce que tu penses que cette croissance-là pourrait être attendue d'une entreprise, là? Mettons une petite entreprise qui se porte dans un podcast, est-ce que tu penses que ça, c'est genre la norme de croître comme ça ou...
De ton podcast, admettons?
Non. Non, je pense que j'ai la réponse à ça, mais je vais avoir ton point de vue.
Écoute, moi, je pense que ton podcast pourrait aurait sa place. Pour une entreprise, ça dépend vraiment du contexte. Là. Tu sais, comme je te dis, s'il y a une opportunité dans le marché puis il y a un trou pour une certaine audience, ben oui, clairement. C'est certain que si tu commences un podcast sur les finances personnelles, aujourd'hui, je pense pas que tu vas être capable d'avoir les mêmes chiffres.
Parce que c'est vous qui avez la place.
C'est ça.
Ouais. Dans le fond, mon point, c'est que où je voulais en venir, c'est que je trouve que c'est une vraiment belle croissance. Puis tu sais, souvent, mettons quelqu'un qui écoute ça, puis il se dit, ah, moi, je vais me partir un podcast, mais là, c'est pas pire, je vais recommencer, puis genre, ça va être genre à 300 ou ça va être genre à 100 auditeurs, mais. Souvent, ce qu'on voit, c'est plus l'inverse. C'était genre à zéro pendant des mois, puis après ça, ça monte à 15, puis après ça, ça monte à 25, puis tu sais.
Ouais. Ben nous, c'est certain que je le publiais sur Facebook avec mon profil privé. Puis pour les gens qui veulent se lancer, peu importe le projet, je vous invite à publier jour 1 et non enregistrer 10 épisodes pratiques, puis après commencer. Personnellement, je suis plus de la philosophie à... On va se créer un avion pendant qu'on est en train de tomber dans le précipice.
Ouais. Un peu comme je tombe présentement dans le précipice, là, parce que je
suis... Absolument. Non, tu me donnes, des souvenirs de moi quand je commençais, là, donc c'est bien.
Cool. all right, parfait. Puis, c'est ça, avec là, tu as aussi une croissance de ton entreprise en même temps, là, tu sais, fait que ça... Parce que c'est un peu intimement lié, là, c'est le même nom, c'est le même sujet. Est-ce que c'était prévu de vouloir dire ok, le podcast va grandir puis après ça l'entreprise aussi, ou c'était plus comme ok, on va voir si qu'est-ce qu'il va prendre en premier, mettons?
Oui, c'était intimement lié. Évidemment, on voulait surtout avoir des invités intéressants, là. À la base, c'est pour ça que j'ai créé le podcast, là. J'avais envie d'avoir des entrevues approfondies sur les différents sujets de la vie, là. C'est certain que la finance englobe une grosse partie de la vie, l'argent et tout, donc ça a été un sujet assez vaste avec plusieurs invités de différents univers, mais somme toute, oui, c'était intimement relié.
Mais c'était prévu que genre le podcast apporte des clients?
Oui et non, c'est certain qu'on voulait gagner en visibilité, se faire connaître, démocratiser les finances, rendre ça accessible. Par la suite, je veux dire, quand tu es capable de communiquer un bon message puis de donner de la valeur, au bout du compte, c'est certain que c'était capable de créer un produit relié à cette confiance-là qui a été développée au fil du temps. Ça fait plus de sens. Mais au départ, on ne savait pas nécessairement qu'est-ce qu'on voulait amener au marché, là, qu'est-ce qu'on voulait commercialiser. On a créé l'audience, on a créé, on a partagé notre passion. Il y a des gens qui nous ont fait confiance, qui ont rejoint notre mouvement. Puis par la suite, on a commencé à commercialiser.
Puis comment vous avez créé l'audience avant de partir le projet?
On l'a créé au fur et à mesure que le projet est né, là, donc l'infolettre, le podcast, etc. Là.
Ok, c'est
Une partie
ça.
intégrale de la business.
Puis est-ce que tu constates, parce que là tu parles de créer une audience, est-ce que tu constates que la création de contenu, à quel point est-ce que tu constates que la création de contenu c'est important en 2023 pour une entreprise?
Je dirais moyennement.
Ah
Moyennement.
ouais.
Pour vrai, c'est quand même mis sur un piédestal. Puis oui, c'est vrai que ça peut apporter des clients. Oui, on a vu des bonnes histoires à succès. Mais somme toute, on peut simplement décrocher le téléphone. Puis faire 150 appels à froid à chaque jour. Puis aller vraiment chercher des ventes beaucoup plus rapides que d'y aller à un parcours sinueux, laborieux, complexe de la création de contenu. J'ai l'impression que les gens sont comme, OK, cool, ça va être la meilleure des deux mondes, je vais être connu, je vais faire de l'argent, puis je vais être libre de mon temps. Mais ultimement, d'essayer de faire les trois en même temps, ça va souvent diluer. C'est l'équivalent de courir après deux lapins en même temps, on va en attraper aucun. Fait que souvent, je pense que c'est un peu un mythe, l'univers de la création de contenu. Oui, il y a une opportunité, ça dépend tellement de ton industrie. C'est dans ton cas, mettons la physiothérapie. On a vu beaucoup de contenu viral de. Je ne sais pas exactement si c'est ce que tu fais. Je m'y connais très peu dans le domaine, mais tu l'as probablement déjà vu, là, les physiothérapeutes ou les. Je ne sais pas s'ils sont physiothérapeutes, mais qui craquent le dos des
Ah,
gens.
des chiro,
Super populaire. Ouais, les chiros. T'sais, on a vu des cabinets de chiro vraiment croître énormément là, grâce à la création de contenu. La dernière fois que j'allais voir un Kiro, c'est parce que c'était un gars à Québec qui faisait des vidéos TikTok de ça. T'sais. Fait que oui, c'est certain que
ouais.
si on s'adresse pour le consommateur, donc le grand public, oui, c'est certain que si c'est pour un service aux entreprises, d'y aller avec le téléphone peut faire également énormément de sens.
Je comprends. Fait que j'imagine que c'est plus pertinent peut-être pour une entreprise qui est déjà démarrée puis qui a déjà un bon roulement puis qui veut peut-être chercher à aller qui cherche peut-être à aller acquérir plus de clients dans un certain domaine ou pour un nouveau produit ou des choses comme ça. Fait que mettons, tu sais, pour finaliser ou pour peaufiner peut-être leur clientèle, je peux dire ça comme ça, là.
Oui, c'est
Ouais,
certain que c'est
vas-y.
un. Ben, tu sais, moi, je le vois vraiment comme un canal, tu sais, un canal de communication. C'est certain que ça peut aider. Tu peux le partir du départ, tu peux le partir quand tu es déjà en démarrage ou quand tu as déjà plusieurs employés. Mais c'est juste que j'ai l'impression que les gens voient ça en noir et blanc. Pour les gens qui veulent se lancer, créer leur propre entreprise, c'est OK, il me faut absolument que je fasse des TikTok. Absolument pas, tu sais. Ou faut absolument que je parte un podcast. Absolument pas. Il y a plein de gens qui sont sous les rideaux, on ne sait même pas qu'ils existent, qui font des millions par année avec leur entreprise. Qui n'ont même pas de site web.
Ah, intéressant, tu dis ça parce que moi je trouvais que c'était comme un problème. C'est des fois là, parce que moi j'ai une petite région, puis il y a beaucoup d'entreprises qui ont pas de site web, puis que, ou ils en ont, puis c'est genre vraiment pas super là. Puis moi je voyais ça comme un problème, tu sais, je voyais ça comme. Mais, I guess ça dépend du domaine aussi, là. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, mais tu sais, y a beaucoup d'entreprises ici, là, que c'est comme. Tu vas sur leur site internet, puis c'est juste leur logo avec quelques petites infos, puis c'est tout, là.
Ouais, mais il y a encore beaucoup d'industries, surtout au Québec, avec la population qui est vieillissante, qui roule par téléphone. Si c'est une relation de confiance, tu vas rencontrer ton client, tu l'appelles par téléphone, ou passer les commandes comme ça fonctionne. T'sais. Évidemment, ça va être inévitable que la technologie. T'sais, je trouve que, OK, cette entreprise-là a pas de site web, donc je vais partir mon entreprise de création de site web, je vais aller vendre un site web. Mais en réalité, c'est que si la technologie derrière le service que tu offres, ne garantit pas ou ne comble pas un réel besoin, ça va être difficile à vendre. Si l'entreprise va vraiment bien puis il n'y a aucune perte de temps, ben ça va être difficile d'aller vendre le service de création de site web. Par contre, si la personne ou le commerce a un inventaire, puis qu'il aimerait avoir des commandes en ligne, mais il ne sait pas comment créer son site web en ligne, là, c'est là que tu as un deal, puis tu as une opportunité. Tandis qu'à l'inverse, j'ai l'impression que quand on commence dans l'univers du service ou de se dire, OK, ben j'ai envie de créer des sites web pour des PME, ce qui est une bonne idée. Évidemment, c'est un marché qui est excessivement compétitif. Mais somme toute, c'est de se dire, OK, avec quel genre de technologie je peux régler un réel problème pour les PME au lieu de dire, son site web est laid, je peux faire un plus beau site web, donc il va m'acheter mon site web.
Mm-hmm.
C'est pas comme ça que les dirigeants d'entreprise réfléchissent. C'est, ils voient ta soumission, ça va coûter 10 000 $ faire notre site web. Combien de dollars ça va générer? Puis là, si tu dis, ah ben c'est de l'intangible, point d'interrogation, ben moi personnellement, je prends cette décision-là au day-to-day. C'est un énorme risque de dire, bon, mais si cette dépense de 10 000 $ j'ai aucune idée combien elle va me ramener. C'est comme ça qu'il faut réfléchir, puis il faut se mettre dans les souliers du dirigeant ou du propriétaire de la PME.
Faut régler un problème pour l'entreprise.
Absolument.
Dans le fond, le but d'une entreprise, c'est ça, c'est régler un problème.
Absolument, c'est d'apporter des solutions aux problèmes de notre quotidien.
Puis vous, le problème que vous réglez, c'est, si je comprends bien, le manque d'éducation ou comme tu as dit, la littératie en termes de finances personnelles chez le grand public?
Ouais, et puis les PME aussi. Maintenant, on est en train d'ouvrir une nouvelle branche là, de services aux entreprises. Mais la prémisse de notre philosophie, c'est la suivante. Les institutions financières, les professionnels manquent de temps ou n'ont pas nécessairement le temps d'éduquer leurs clients. Les écoles n'éduquent pas les gens sur les finances. Puis là, la raison du comment et du pourquoi ils ne le font pas, c'est à vous-même de juger, mais c'est certain que 80% des adultes manquent de connaissances en finance, alors que ça règle ou ça dicte, peut-être en étant conservateur, 50 à 60% de leur quotidien sont basés sur des décisions monétaires. Évidemment, ça, c'est mon propre opinion. C'est backé par aucune donnée scientifique. Là. Mais si on est simplement logique, la moitié de tes décisions, du matin quand tu te lèves, le soir quand tu te couches, c'est pourquoi tu vas travailler? Mm-hmm. Pourquoi tu manges ça? Pourquoi tu t'habilles comme ça? Mm-hmm. Pourquoi tu conduis ça? Pourquoi tu prends l'autobus? Etc, etc, etc. C'est une grosse partie que c'est des valeurs, une grosse partie que c'est purement monétaire aussi. Là. Mm-hmm. Donc, par la suite, nous, c'est certain qu'on s'est dit, OK, personne n'a le temps ou prenne le temps d'éduquer la population. Puis les gens ils veulent en savoir plus parce qu'il y en a qui comprennent, en tout cas du moins les gens qui nous écoutent et qui viennent nous voir, comprennent l'importance de contrôler ses finances. Parce que sinon, c'est l'inverse souvent qui arrive où les finances te contrôlent. Donc, suite à ça, on s'est dit, OK, clairement, il y a une opportunité. Les personnes qui le font, faisons-le.
Il y avait personne qui faisait ça au Québec?
Pas de la façon qu'on le fait.
C'est quoi votre valeur ajoutée?
Je pense que c'est notre transparence radicale, notre authenticité, notre vulgarisation, qui est quand même excellente.
Fait qu'il y a genre pas de questions taboues, mettons comme ça avec des clients, des choses comme ça.
Non, c'est ça, exact. Puis c'est surtout qu'on est neutre, on n'a pas de parti pris. Tu sais, souvent, admettons, il y a d'autres communautés. Il y en a quelques-unes des communautés sur les finances au Québec. Ils vont s'associer avec différents organismes ou différentes banques ou différents conseillers financiers. Nous, on est indépendant, neutre. On veut vraiment simplement le meilleur pour les gens qui font partie de la communauté.
Puis, mettons... Je suppose quelque chose, là. Mettons une grande entreprise qui vous approche puis ils veulent vous acheter à une grosse somme, puis je sais pas, mettons 50 millions, puis peu importe le chiffre, là, puis ils vous disent, OK, ben à chaque fois que vous allez donner des conseils ou que vous allez faire de l'éducation sur les finances personnelles, vous allez comme tout le temps recommander notre institution financière ou des choses comme ça. Est-ce que, tu sais, à un moment donné, y a-t-il une ligne pour toi, est-ce que tu te dirais comme, ah, OK, c'est beaucoup d'argent, peut-être je le ferais, ou pas du tout?
Non. On n'est pas là pour vendre. On veut pas vendre. On veut créer notre propre banque.
J'aime ça. C'est bon. Nice. Puis tantôt, tu parlais de, tu sais, la raison de pourquoi on n'éduque pas aux gens, on n'éduque pas les gens sur les finances personnelles. Puis là, tu dis, genre, ben, c'est à nous de juger de pourquoi, mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas autant, il n'y a pas assez d'éducation?
Ben, c'est la grande question. C'est le grand point d'interrogation. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de cours au secondaire? On commence à en avoir. On fait des conférences dans les écoles.
Cool.
Donc, je lève mon chapeau. Et la réforme fait en sorte qu'il commence à avoir des cours sur les finances personnelles, la base. Par contre, les professeurs ne sont pas formés. Puis les profs, la veille du cours, doivent inventer un curriculum ou apporter du contenu. T'sais. Fait que le challenge est grand. Là, parce que les professeurs ont jamais eu de cours sur les finances. Hein? Puis c'est excessivement difficile. Tu sais, mes soeurs sont professeurs, puis je le vois au quotidien. C'est un job qui est très, très, très difficile, peu reconnu pour ce qu'ils accomplissent. Puis l'impact qu'ils ont dans le futur de notre société, veut, veut pas, là, c'est eux qui vont former les futures générations. Puis évidemment, ben, de transmettre cette éducation financière-là, c'est un travail qui est laborieux parce qu'il y a très peu de ressources en ligne qui simplifient la chose au maximum. Tu sais.
Comment Est-ce que, dans un autre sujet, est-ce que t'es riche?
Le salaire moyen au Québec est de 52 000, 53 000. Est-ce que tu sais c'est quoi le montant qu'il faut pour être dans le top 1% au monde des gens les plus riches?
Il me semble que c'est 400 000.
Non. Au monde. Dans le monde. Tu prends
ah, dans le monde, excuse-moi. Ouais, dans le monde. Ben, on va dire 35 000, je sais pas.
Ouais, c'est 32 000.
Ah, pour vrai?
Ou tu gagnes 32 000 par année pour être dans le top 1% de la race humaine. Ouais. Fait qu'après ça, tu me dis, est-ce que tu es riche?
Absolument.
Ouais. Évidemment.
Ouais.
À quel point tu es riche? Ben, je veux dire, c'est relatif, là.
Ouais. Ouais.
C'est, oui, c'est certain que la valeur d'une entreprise peut être chiffrée dans les millions, tu sais, facilement. Mais après ça, c'est est-ce que l'entreprise, on veut nécessairement la vendre? Ben non, tu sais, on veut pas nécessairement la vendre. Fait que tu sais, c'est papier sur papier, oui, c'est certain que rapidement, on peut devenir millionnaire. Est-ce qu'après ça, tu sais, j'ai 1 million dans mon compte en banque? Non, ça me sert à rien, j'aime mieux faire travailler mon argent.
Puis évidemment, ma question, c'était plus pour te déstabiliser un peu, là, c'est pas... je ne m'attendais pas à un chiffre ou rien de ça. Là. Merci d'avoir compris
c'est
ça. Mais
quand tu y penses, ouais. 32 000 $ par année, tu es dans le 1% de la race humaine.
Ouais, ouais. Ever, hein, je pense. Ben, dans le fond, toute l'histoire, il n'y a pas vraiment, il y a pas tout le temps eu de l'argent pour calculer ça, mais je veux dire, on est quand même les plus riches que de toute l'histoire de l'humanité. Là.
Ouais, ben, c'est ça. Puis, ça, je trouve que ça apporte ta réflexion. Je serais curieux de voir l'indice du bonheur. Je ne sais pas si ça existe. L'indice de gens qui se sentent bien versus les années 50 ou les années 1800, etc. Mais quand même, on se rend compte que oui, c'est quand même assez unique. Là, on est dans un univers assez unique où on a la chance de naître au Québec puis d'être dans le 1% de la société mondiale.
Ouais.
Sans guerre.
Ouais, ouais, vraiment. Puis je suis content que tu dises ça parce que j'ai l'impression que. Enfin, justement, tu disais, je sais pas si on est plus heureux qu'on était. Moi, j'ai l'impression que non, là, parce qu'on parle beaucoup de. On parle beaucoup de dépression depuis les dernières années, là. Tu sais, moi, j'ai l'impression qu'on n'est pas plus heureux. Je sais pas ce que toi t'en penses, tu sais, malgré le fait qu'on est plus riche que jamais, puis notre mode de vie est de plus en plus, j'ai envie de dire facile, mais. C'est pas nécessairement vrai, là, mais il y a plein de technologies qui nous aident à passer à travers notre quotidien de plus en plus. Puis je pense qu'on reconnaît pas tout le temps ça. Fait que je sais pas ce que t'en penses. Là.
J'ai l'impression qu'une grande partie du bonheur, c'est vraiment relié à la quête que tu choisis dans ta vie, de mode de vie que tu as en termes d'entraînement, puis les gens avec qui tu t'entoures. C'est certain que si tu t'isoles, tu as une mauvaise santé physique, tu t'isoles dans le sens que tu n'entretiens pas tes relations. T'entraînes pas, puis t'as aucune quête d'accomplissement ou de persévérance ou de but, ben c'est difficile de poursuivre dans cet univers-là. Personnellement, j'essaie d'optimiser les trois en ce moment. Là, souvent, on néglige un des trois, mais personnellement, c'est la formule qui fonctionne pour moi. Écoute, je suis plus un homme d'affaires, là. Je suis loin d'être
psychologue.
Bon pour ce type de choses-là. Là. Mais somme toute, c'est ma philosophie par rapport à ça. Là.
Ben, j'ai tendance à être d'accord, là. Je pense à ma vie, puis moi aussi, je pense que c'est trois volets importants, là, mais en tout cas, on a toutes nos façons de faire les choses. Est-ce que tu fais activement du développement personnel?
Je le fais à travers le fait de sortir de ma zone de confort, là, comme par exemple essayer de balancer ces trois-là. Avant, c'était vraiment juste les affaires. Puis là, maintenant, je me suis rendu compte que ça crée une vie très shallow. Désolé l'anglicisme, mais peu profonde. Fait maintenant, j'essaie de vraiment mieux entretenir ou de mettre beaucoup d'emphase là-dessus, sur les gens que je rencontre, mes amis, ma famille, etc. Puis l'entraînement également physique, là, ces temps-ci, je suis sur un super bon régime d'entraînement, puis je veux le garder, ces trois éléments-là, en priorité. Là.
Cool. Est-ce que... j'imagine que tu travailles beaucoup, est-ce que je me trompe?
Oui, en effet.
J'imagine que ça a quand même toujours été comme ça depuis que tu as une vie professionnelle.
Oui.
Est-ce que des fois, quand tu es dans une autre sphère, c'est-à-dire peut-être plus une sphère relationnelle, par exemple, tu passes du temps avec ta famille, là, est-ce que tu vas te sentir mal?
Mal de...
En anglais, c'est guilt. Ouais, genre coupable, pas coupable, mais comme si tu devais être ailleurs, puis comme si tu perds du temps.
Coupable de pas travailler?
Ouais.
Non, absolument pas, parce que je suis conscient que c'est moi-même qui est maître de mon propre temps. Donc, quand je suis à quelque part ou avec quelqu'un, j'ai décidé d'être avec cette personne-là ou à cet endroit-là, dans ce podcast-là. J'ai dit oui, OK. Puis là, j'étais avec toi à 100%. J'essaie de garder cette mentalité-là avec toutes les choses que je fais. Très difficile parce que je suis TDAH à 100%. Mais somme toute, j'essaie d'être présent au maximum, de ne pas être sur mon téléphone, puis de vraiment apprécier le moment au maximum. Mmh. Je pense que c'est quelque chose que je faisais moins avant parce qu'on est toujours hanté. Personnellement, je pense, puis j'ai plusieurs amis entrepreneurs également, ou personnes d'affaires que je connais dans mon cercle, qui a ça également, le fait d'être hanté, entre guillemets. T'sais, même si on ne veut pas y penser, on y pense. Ça nous habite. Mais en vivant le moment présent au maximum, puis essayer de toujours se ramener dans le moment, ça m'a aidé beaucoup à balancer ça.
Uh-huh. Est-ce que au début tu avais plus de difficultés parce que ben c'est une question que on dirait je te propose une réponse mais parce que moi dans mon cas c'était ça tu sais au début de ma vie professionnelle mettons au début quand j'allais à l'université par exemple tu sais beaucoup de travail à faire tout ça puis là je faisais juste prendre du temps pour relaxer ou faire autre chose puis je me sentais mal fait que tu sais là c'est moins pire fait que c'est pour ça que je dis au début mais est-ce que toi c'est aussi le cas parce que
non je travaille juste à temps que je sois plus capable. Fait que c'est pas... Dans le sens que quand j'arrête, mes batteries sont par terre. Là. Fait que j'ai pas le choix de prendre du temps ou d'aller m'entraîner, etc.
Mm-hmm.
De toute façon, c'est impossible. Il y a personne qui peut juste travailler sans arrêt.
Non, c'est ça. Est-ce que tu y penses activement à ça, dans le sens, quand tu travailles, est-ce que tu dis, OK, il faut vraiment que je me pousse? Mettons, parce qu'il doit arriver des moments où est-ce que tu travailles, puis là, ton cerveau te dit, ben là, je suis un peu tanné, ou c'est... Tu sais, mettons, tu fais la même tâche pendant 3 heures, tu sais, on est fait comme ça un peu les humains, à un moment donné, on se tanne de la tâche, on veut faire autre chose, on est ennuyé, mettons. Est-ce qu'activement, tu te dis, là, du coup, faut pas que je lâche, je continue dans la même affaire parce que c'est ça qu'il faut que je fasse, ou tu te dis plus comme... ou tu y penses même pas, puis pour toi, c'est juste facile, puis ça y va naturellement.
Ouais, c'est intéressant. C'est exactement là que la quête rentre en ligne de compte. Si... tu crées des nouveaux besoins ou ton mode de vie change, bien souvent la fin peut justifier tes moyens. Fait que, tu sais, le fait, mettons, que ça fait, je sais pas, plus de 100 épisodes qu'on enregistre, ça va, j'ai encore la passion, mais le travail administratif, on le fait un peu moins parce qu'on on a des employés pour ça, mais, tu sais, par exemple, répondre à mes courriels, etc., c'est plus difficile, c'est ennuyant pour moi. Mais je le fais parce que je sais qu'il y a un retour sur investissement direct qui va me permettre de voyager, de chauffer le véhicule de l'année. Bref, peu importe ce que tu as envie d'avoir monétairement. Ou à l'inverse, ça peut vraiment être juste une simple quête pure et dure de que les gens nous écrivent sur notre page Instagram. Ils ont des questions sur les finances. T'sais, souvent, on change la vie des gens, mais pas loin, là, dans le sens que on aide les gens souvent à sortir des dettes, à apprendre à investir. Genre, ça a un gros impact dans leur vie. Fait que de répondre à ces messages-là, ben, c'est gratifiant. Fait que tu tombes un peu moins dans l'ennui. Mais il faut toujours que tu te ramènes à okay, mais pourquoi je le fais? Est-ce que ça a un réel impact? Si ça n'a pas d'impact, ben souvent, c'est un bon signe que tu peux l'automatiser là, ou le déléguer. Si c'est vital puis tu vois que ça a un impact, même si ça t'ennuie, pense à ta quête.
Intéressant. Puis, est-ce que ça t'arrive des fois d'échouer à suivre la quête, justement?
Absolument. Absolument.
Est-ce que ça t'arrive fréquemment? Parce que tu me sembles super déterminé puis discipliné. Puis, j'ai hâte de voir un peu ton point de vue par rapport à ça. Comment tu vis ça? Est-ce que ça t'arrive encore de dire, OK, là, aujourd'hui, j'ai procrastiné, mettons?
T'as déjà vu une charte en bourse? Un graphique boursier.
Ouais, OK, ouais, ouais.
C'est exactement ça. Là. On a le opening, on a la journée d'ouverture, la journée de fermeture. Puis, peu importe la façon que tu le vois, c'est toujours... Il y a toujours des hauts et des bas dans une journée. Là. Puis on peut perdre la quête facilement de vue. C'est juste important d'essayer de garder le cap au bout du compte. C'est comme un bateau qui avance à travers l'océan. Tu vas dévier de ta trajectoire, c'est inévitable. C'est juste d'essayer de garder le cap le plus possible.
Puis à quel point est-ce que il y a des gens qui pourraient prendre cette mentalité-là puis l'utiliser à leur avantage pour justifier leur lâcheté, mettons. J'explique un peu plus là. Mettons quelqu'un est super lâche, puis à toutes les fois qu'il procrastine, il dit bah tu sais, c'est pas une bonne journée, mais il y a des hauts et des bas, c'est normal, il y a des hauts et des bas, puis aujourd'hui je suis dans le bas. T'sais, à quel point est-ce qu'il faut que cette personne se dise ok, manette, comme je peux pas juste tout le temps être dans le bas, faut que j'avance aussi. Faut que j'aie des bonnes journées aussi à travers de ça, tu sais. Fait que c'est où la ligne entre ton mindset, que je suis d'accord, mais c'est où tu te dis ok, c'est pas juste une justification pour ma procrastination. Comment ça pour déterminer que c'est pas une justification, mettons?
Je pense que c'est bon d'écouter son corps. T'sais, moi, de la façon que je le vois, c'est pas mal une jauge de batterie. C'est certain que si t'es vraiment... t'as très peu d'énergie, t'as besoin de vraiment de recharger, de prendre une semaine off, prends-le. Bien souvent, j'ai été coupable de justement pas prendre cette semaine-là. Mais somme toute, c'est certain que c'est pas fait pour des gens qui sont pas capables de se motiver par eux-mêmes. Évidemment, tu peux t'entourer de gens qui travaillent plus fort que toi, fait que ça va te motiver. Comme par exemple, l'entraînement physique, c'est vraiment pas ma force. T'sais, j'ai de la difficulté. Puis là, j'ai eu une super bonne croissance physique parce que je me suis entouré de gens qui allaient 6 fois semaine, qui avaient une super alimentation, etc. Sinon, je ne l'aurais jamais fait. Donc, tu peux faire la même chose en affaires. C'est certain qu'il faut que tu sois en mesure d'amener quelque chose à la table. Mais c'est certain que c'est pas pour les... C'est la définition même d'entrepreneuriat, c'est persévérance de base. Fait que c'est certain que si c'est un trait que tu as ou que tu es en mesure de développer, go. Si tu cherches toujours le hack, ça va être difficile.
Mm-hmm. Est-ce que tu penses que c'est accessible à tout le monde considérant que le vouloir serait là, mettons? La volonté serait là?
Non.
Pourquoi?
Il y en a qui ont la volonté, mais ils sont pas prêts à prendre les risques nécessaires. C'est difficile.
Qu'est-ce qui est si difficile?
Ben, c'est d'être en mesure de dire que cette année, je vais faire 0$, je vais travailler 80 heures semaine. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Évidemment, je veux dire, c'est extrémiste comme métaphore, mais c'est quand même ça qu'on peut se dire, tu sais. Évidemment, le but, c'est de faire des millions. Le but, c'est pas de dire je vais faire 0, fait que je vais travailler en conséquence pour faire 0. Là. Non. Donc, si tu veux faire des millions, Mais ça reste que ça peut prendre du temps. Tu sais, pendant un an, ça se peut que ça soit difficile de se dégager un salaire.
Puis, mettons, si on parle de finances personnelles là-dessus, comment techniquement c'est possible d'acheter de la bouffe si tu fais zéro?
Ben, de là l'importance d'être en mesure d'épargner. Tu sais, avant de se lancer. Mais il y a plein de business que tu peux commencer avec 0$ down. Fait que ça va. Puis, ben, de là l'importance de, tu sais, les side hustles, de commencer une carrière à gauche et à droite. Puis de voir qu'est-ce qui fonctionne le plus, là. Mais il y a plusieurs avenues possibles. Financement aussi.
Fait que c'est d'avoir peut-être du financement des aides du gouvernement au début ou de des subventions, du financement des institutions financières après ça, ben, t'as ramassé de l'argent de ton côté aussi.
Exact.
Alright, cool. Puis, tu disais, t'sais, le but c'est de faire des millions, tout ça. Est-ce que ça t'est arrivé, comment est-ce que ça a été reçu quand t'en as parlé à ton entourage que tu voulais faire des millions?
J'en ai jamais nécessairement parlé en soi. Le but, c'est pas. J'ai dit faire des millions dans cet exemple-là, mais personnellement, c'est certain que c'est pas juste les millions qui me motivent. Évidemment, oui, ça en fait partie, mais mon entourage a été quand même assez ouvert d'esprit. J'ai toujours été encouragé à entreprendre ce que je souhaitais entreprendre, de vraiment créer la vie que je souhaite créer. J'ai jamais eu vraiment de limitation à ce niveau-là, mais en général, je suis assez secret envers mes objectifs. Là, je ne vais pas nécessairement le dire à tout mon entourage. Essentiellement, quand j'ai parti live, je ne le criais pas sur les toits que je créais live pour faire des millions. Là. Loin de là, je le faisais juste par pure passion au début, puis de fil en aiguille, ça a pris du momentum.
Intéressant, parce que... Mais j'imagine que tu en as quand même un peu parlé avec ton entourage, dans le sens... si tu es en couple, par exemple, tu en as peut-être parlé avec...
Ouais, mais pour être honnête, tu sais, ça l'a pas. C'est juste que du jour au lendemain, j'ai commencé à le faire, puis j'ai pas nécessairement réfléchi. C'est juste, fais-le. T'as envie de le faire. Tu pourrais être surpris dans un an ou deux ans.
J'ai remarqué que tu t'exprimes quand même super bien, puis je veux savoir si c'est quelque chose de volontaire ou si c'est quelque chose qui vient avec le temps.
Avec le temps. Sans quelques épisodes plus loin.
Ouais.
J'avais beaucoup de tocs au départ, puis les gens me réprimandaient également. J'ai essayé encore de briser ces patterns-là, les fameux ou les genres. Moi, personnellement, c'était mes deux némésis. Mais encore aujourd'hui, j'ai énormément de difficultés, fait que j'essaie de peser mes mots puis d'éviter ces deux tocs-là. Parce que le pattern, c'est souvent relié à la réflexion, là. Quand je réfléchis, souvent, j'utilise ces deux-là pour « feel » les choses. Mais ce que j'ai appris, puis un petit truc, c'est vraiment d'ajouter du silence. Le silence, c'est élégant. Puis, c'est pas nécessaire de nécessairement tout remplir. Il peut y avoir des silences. C'est pas malaisant, c'est normal. Juste, c'est difficile à implémenter quand t'es habitué de parler avec des slangs puis des « filler words ».
Je remarque que t'as dit, moi aussi j'avais des tocs. Tu vois. J'imagine que tu dis ça parce que j'en ai, puis j'en fais.
Non, pas tout. Ben, honnêtement, moi, c'est la dernière chose que je remarque quand je parle à quelqu'un. C'est vraiment pas quelque chose que je remarque. Mais c'est juste que je me le suis fait dire énormément, puis je sais que c'est courant dans notre société, là. Tout le monde a des tocs ou des façons de s'exprimer.
Ouais.
Mais c'est juste que moi, je me le suis tellement fait dire à répétition. Que j'essaie de le corriger. Donc,
Est-ce que tu penses que ça t'est utile d'avoir corrigé ça?
Absolument. Je pense que la communication, c'est un super véhicule. C'est important. Encore une fois, c'est une des choses qu'on met pas beaucoup d'emphase dans notre vie, mais ça peut avoir un gros impact. Que ce soit nos relations amoureuses, nos relations sociales, nos relations professionnelles. Veux pas, une grande partie de tout ça est dictée, pas nécessairement parce que tu dis, mais de la façon dont t'en parles ou de la façon que tu projettes tes idées. Donc, souvent, juste une intonation ou une façon où les mots utilisés peuvent avoir des résultats complètement différents. Ça peut partir en guerre ou ça peut vraiment aller à ta façon. Simplement avec la façon que tu communiques. Là.
Est-ce que tu as des exemples de situations où tu as changé la façon dont tu communiquais ça t'a directement apporté un bénéfice ou un impact?
Ouais. Je pense que l'honnêteté, c'est souvent en affaires, les choses vont très vite. Puis j'essaie de rester le plus transparent et le plus honnête possible. Ça a un impact positif, évidemment. Mais aussi, je pense que de se mettre dans la place, dans les souliers des autres par le passé, c'est quelque chose que j'avais plus de difficultés à faire puis que je fais plus maintenant. Tu sais, je suis encore super jeune, je veux dire, j'évolue rapidement puis j'apprends de mes erreurs. Mais souvent, ce qui m'a aidé, c'est de se mettre vraiment à la place de l'autre avant de communiquer sa proposition. Ça a un gros impact. Mm-hmm. Ça paraît super bénin, mais c'est quand tu es vraiment intentionnel à propos de ce concept-là, ça peut avoir un gros impact.
Mm-hmm. Absolument. Bien d'accord. Écoute, je ne t'entendrai pas plus que ça ou j'arrêterai ça direct là. Je pense que écoute, ça a été vraiment intéressant de te parler, puis je te remercie beaucoup, Hubert.
Absolument, ça fait plaisir.